BFM Business. BFM Bourse. Le club.
On vous accompagne jusqu'à 18h, un peu plus de 17h, le club, pour essayer d'anticiper les mouvements de marché, les grands enjeux macroéconomiques qui nous attendent pour la suite. Bruno Le Maire, on va revenir aussi sur la phrase de Bruno Le Maire. On a atteint la cote d'alerte en matière de finances publiques, a estimé ce matin le ministre de l'économie. Ils vont réagir, nos deux coéquipiers du club, Marc Toiti, ce soir à nos côtés. Bonsoir Marc.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue, économiste et président du cabinet AC Défi. Christian Parizeau avec nous aussi. Bonsoir Christian.
Bonsoir.
Président Christian Parizeau d'Alter Economics. Bienvenue donc à tous les deux. On va avoir aussi cette semaine beaucoup de grains à moudre sur le front de l'inflation avec les chiffres américains, les prix à la consommation cette semaine aux États-Unis et les chiffres aussi européens, en espérant voir les prémices d'un pic d'inflation. Est-ce que vous pensez que cette semaine, ce sera la bonne semaine pour enfin voir un pic d'inflation ou les prémices d'un pic?
Alors, sur les États-Unis, c'est le mois de mai qu'on a. Vous savez, on a ce qu'on appelle les prix à la consommation qui sont publiés, qui a fait tant réagir les marchés sur le dernier chiffre. Et là, c'est ce qu'on appelle le déflateur de la consommation. C'est donc un indice beaucoup plus large des prix qui sera publié en fin de semaine. Et donc, cet indice reflète encore les prix de mai. Alors, donc, on est encore sur des tensions inflationnistes qui étaient dans l'indice large déjà en mode réduction, et c'est ce qui avait été dans un premier temps bien pris par les marchés, d'où la mauvaise surprise par rapport aux chiffres d'inflation qu'on a eu ensuite. Donc c'est très aléatoire, pour être honnête, prévoir aujourd'hui un chiffre, c'est très aléatoire. Moi, ce que j'aurais tendance à dire en tendance sur disons horizon 3 mois, on va quand même véritablement sur plutôt un pic d'inflation, pas surtout, mais il y a quand même un effet énergétique qui va un petit peu s'essouffler sur les indices d'inflation. On va avoir aussi, on a vu qu'on a quand même une petite amélioration sur les chaînes d'approvisionnement et surtout une demande qui est en train de se retourner sur la partie biens, qui fait que ça sera beaucoup plus compliqué pour les entreprises de relever leur prix de vente. N'oubliez pas une chose, c'est que l'inflation, c'est parce que les entreprises peuvent relever leur prix de vente. Donc derrière, quand on vous parle de ralentissement, de consommation qui commence à s'essouffler, ça veut dire aussi pour les entreprises, moindre capacité à répercuter les hausses de coûts et donc derrière, peut-être plus de pression sur les marges. Donc moi je pense qu'en tout cas on va plutôt sur un petit essoufflement. Le seul problème qu'on risque d'avoir, c'est que d'ici la fin d'année on restera quand même sur un rythme d'inflation qui sera peut-être pas à 8 mais plutôt autour de 5, mais on est quand même à 5, donc on sera pas non plus revenu à quelque chose de normal aux yeux des banquiers centraux.
Et vous, c'est plutôt ça. Vous pensez qu'ils vont d'ailleurs finir par ajuster leur cible d'inflation et abandonner la cible habituelle de 2%?
Non, je pense que ça serait le plus mauvais message à envoyer au marché, surtout au marché obligataire, parce que là ça ferait réagir très 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 violemment les taux longs. Si vous cassez durablement en disant voilà, je laisse filer l'inflation et je m'ajuste au dernier. Non, ça serait le pire des scénarios.
Mais dans un monde en transition énergétique où la donne est en train de changer
structurellement. Oui, mais c'est pas le moment. Faut le faire au moment où on est revenu à deux. Et dire, on se laisse peut-être plus de marge éventuellement. L'historique nous a montré que l'inflation pouvait déraper en dehors de notre contrôle et pour des choses dont on n'est pas responsable. Et là, je peux justifier un relèvement de ma fourchette. Mais si je le fais au moment où je n'atteins pas ma fourchette, je perds complètement en crédibilité. Et je vous rappelle que ce que nous a dit M. Boulard, après vous l'y croyez ou pas, mais ils disent, on ne fera pas une récession aux États-Unis parce qu'on est beaucoup plus crédible qu'à l'époque de M. Volcker. Volcker a vraiment cassé la croissance américaine parce qu'il devait casser les anticipations d'inflation. Et il devait montrer qu'ils seraient efficaces. Il dit, nous, on n'a pas besoin d'aller aussi loin, et tout leur argumentaire est là-dessus, on n'a pas besoin d'aller aussi loin parce qu'on est crédible. Alors, si vous, derrière, vous cassez tout ce qui casse la crédibilité, ça veut dire que vous devez, pour le jour où il faudra calmer l'inflation, aller beaucoup plus, taper beaucoup plus fort.
Vous n'êtes pas certain que la crédibilité de la Fed est restaurée à ce point? Pas encore.
Non, il y a quand même une certaine crédibilité quand même, parce que quand je suis pas un grand fan.
Vous l'avez appelé James Boulard d'ailleurs. Voilà, on a entendu.
En ce moment, je suis pas un grand fan de la Banque centrale américaine, et puis je trouve hallucinant qu'elle change en termes de rythme de hausse des taux, qu'elle change sur un seul chiffre. C'est quelque chose que je trouve d'une aberration pour un banquier central, parce qu'en général, on lit l'économie en tendance et on réagit pas à un seul chiffre. Donc je les trouve un peu fébriles en ce moment. Mais au-delà de ça, je trouve qu'aujourd'hui, on a tous en tête, on regarde tous les anticipations d'inflation, on regarde tous les anticipations à long terme, et on voit encore que ce chiffre de 2 est un peu magique, même s'il n'a aucun sens économique à proprement parler, mais il reste un petit peu magique pour encadrer ça. Et dès que les anticipations, on l'a vu pas plus tard que vendredi, regardez la réaction des marchés qui a très bien réagi. Alors, un chiffre du Michigan exécrable, il y avait la seule chose qui
confiance
était un peu bonne.
Confiance des consommateurs au plus bas historique.
Voilà, la seule chose qui était un petit peu bonne, c'est que les anticipations à long terme, à 5 ans, on va dire, de l'inflation par les ménages qui ont répondu à cette question, étaient en léger recul, et on s'est dit, ça y est, ça va revenir vers les 2, et donc ça va crédibiliser la Fed. Donc, vous voyez, on est encore dans cette psychologie. Alors c'est de la psychologie, encore une fois, je vais pas vous dire que 2 ou 3 ça change ça, la vie va complètement changer parce qu'on s'y prenait un objectif de 3, mais c'est vraiment psychologique aujourd'hui et on casse pas ça.
Marc, est-ce que le pire pour les marchés est derrière? Est-ce que les astres vont désormais s'aligner pour un rebond dans la mesure où on a peut-être vu le pire dans la remontée des taux obligataires, surtout s'il y a une récession, on voit que le marché obligataire pourrait se détendre, on l'a vu se détendre ces derniers jours, on a peut-être vu le pire sur les cours du pétrole aussi qui sont orientés à la baisse depuis quelques jours. Est-ce que le pire est derrière? Est-ce que les marchés sont mûrs pour rebondir?
Il y a deux enjeux, effectivement. D'abord, sur l'inflation, on peut quand même essayer de dresser des petites perspectives. Alors, il y a d'ailleurs deux mondes un peu différents. Effectivement, aux États-Unis, où là, on a certainement atteint un pic, parce que les prix à la production, qui sont des indicateurs avancés de l'inflation, on reste sur 11%, un petit peu moins de 11%, donc on est en train de décréter. Par contre, nous, dans la zone euro, et c'est là où il y a une différence notable, c'est que l'inflation va encore augmenter. Je pense que quand on voit l'inflation, les prix à la production, même s'il y a un gap énorme, on est sur des niveaux, regardez les chiffres d'Eurostat, on est à plus de 35% en glissement annuel sur les prix à la production dans la zone euro. On monte à 50% en Belgique, par exemple. En France, à 27%. Bon, des chiffres complètement fous. Bien sûr, des sommets historiques. Alors, on va pas évidemment répercuter, hein, on n'aura pas autant d'inflation. Mais si on fait une petite projection, moi, je pense que l'inflation, déjà en France, elle va très vite atteindre 8%. Et dans la zone euro, on peut atteindre 10%. Donc, ce qui veut dire que là, à partir de là, c'est pas encore terminé plus dans la zone euro par rapport aux États-Unis. Puis ensuite, en plus,
vous voyez quand ce pic en zone euro?
Cet été, je pense, court de cet été.
On y est presque.
On y est presque. Courant de l'été, disons vers la fin de l'été. Mais le problème qu'on a, c'est que là, c'est là peut-être un petit point d'achoppement avec Christian, c'est que on a quand même deux visions du monde qui s'opposent. C'est-à-dire qu'effectivement, aux États-Unis, moi je suis d'accord, je pense pas qu'ils veulent faire une grave récession, mais en tout cas, on dit on va prendre le taureau par les cornes. C'est-à-dire pour peut-être retrouver le bull market, il faut prendre le taureau par les cornes, effectivement, en disant voilà, nous, le vrai danger, c'est l'inflation. Donc on va tout faire pour essayer de la limiter, même si ça dépend pas complètement de la réserve fédérale, mais en tout cas, Jerome Powell, parce que n'oublions pas d'où vient l'inflation, il y avait une erreur de stratégie hein, à la base, dès 2021, on a continué la hausse de la dette publique, on a continué le plancher à billets, ce qui a fait cette inflation, après il y a la guerre en Ukraine bien sûr, mais tout ne vient pas de la guerre en Ukraine, hein, c'était déjà là bien avant, et à partir de là, la réserve fédérale a fait son mea culpa, on s'est trompé, on va arrêter la planche à billets, on va monter les taux d'intérêt, peut-être un petit peu trop fort, un peu trop rapide, mais enfin, en tout cas, il y a un pilote dans l'avion, alors que nous, en Europe, dans la zone euro, c'est ça qui est très surprenant, il n'y a pas eu de mea culpa de la part de la Banque Centrale Européenne. Et on nous dit, on a vu la semaine dernière, enfin il y a 10 jours maintenant, quand les taux d'intérêt grecs ou italiens commençaient à fortement monter, la Banque Centrale Européenne dit « Ah non, mais attendez, non, vous inquiétez pas, on va encore continuer la planche à billets, alors c'est pas tout à fait la même qu'avant, mais on va acheter des dettes publiques, donc il n'y a pas de problème, on veut pas se faire mal, tout va bien dans le meilleur des mondes. » Donc c'est ça qui est extrêmement dangereux aujourd'hui. Donc nous, on est en train de prendre le risque de laisser filer encore un petit peu l'inflation. Hein, même si de toute façon elle baissera en fin d'année, ça c'est inévitable, puisque hein, c'est l'effet de la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire qu'on va tellement casser effectivement l'activité que in fine les prix repartiront à la baisse. Et d'ailleurs depuis quelques semaines, il y a une bonne nouvelle, hein, c'est que les prix des matières premières commencent à baisser un petit peu. Oui. Donc ça va arriver sur les prix à la production dans quelques mois et sur les prix à la consommation en fin d'année. Donc je pense qu'on prend pas trop de risques en disant que l'inflation va baisser. Attention, ça veut pas dire la baisse des prix, hein. Ça veut dire la baisse de l'inflation, donc une désinflation, un ralentissement de la hausse des prix. Mais néanmoins, on va rester sur une inflation qui sera élevée. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est effectivement ce qui se passe au niveau de la zone euro aujourd'hui, où finalement, on laisse la dette publique flamber, on dit non, il n'y aura pas de sanctions, alors que si on a une dette publique qui flambe, une inflation qui flambe, que les taux d'intérêt des dettes publiques augmentent, c'est logique. Nous, on ne veut pas se faire mal encore une fois, on ne veut pas, on a cette fuite en avant qui, à mon avis, est extrêmement dangereuse. Donc, c'est là où pour les marchés, je réponds
parce qu'on
question.
Se dit peut-être qu'on n'a pas les moyens de la Fed, à savoir qu'aux États-Unis, on a atteint un niveau de croissance tel que, avec des resserrements monétaires très forts, on n'ira pas dans une profonde récession. Peut-être qu'en Europe, des resserrements monétaires presque équivalents entraîneraient peut-être plus de dégâts économiques. Alors, pour éponger ces dettes dont vous craignez qu'elles ne soient irréversibles, on mise sur, malgré tout, une politique monétaire un peu moins dure pour sauver la croissance.
Oui, le problème, encore une fois, c'est que n'oublions pas comment on sort d'une récession, d'une inflation. Je me suis trahi. C'est-à-dire que pour sortir d'une inflation, d'une forte phase d'inflation, comme on a aujourd'hui, malheureusement, ça se termine toujours de la même façon, avec une phase de récession plus ou moins forte. Donc, les Américains disent, mieux vaut avoir une petite récession maintenant, quitte à repartir sur des bases plus saines en cassant l'inflation. Nous, on dit non, c'est pas grave, on verra ça demain. Mieux vaut laisser filer l'inflation, et puis Sauf que la récession à la fin, elle risque de faire extrêmement mal. Donc c'est ça qui aujourd'hui, à mon avis, me paraît dangereux pour la zone euro. Et donc c'est là où les marchés, moi je pense qu'il y a un rebond un petit peu technique sur les marchés. Le plus dur n'est pas complètement terminé, notamment sur les valeurs du numérique. Je pense qu'il y a encore cette bulle qui se maintient.
Vous me surprenez là. Et les valeurs du numérique, les GAFAM, la tech, on a vu des chutes parfois de 70%. Vous dites il y a encore des bulles.
Ça dépend lesquelles. Mais regardez le Nasdaq. Moi je regarde l'indice.
Les GAFAM, celles qui font des bénéfices, ont moins chuté. Mais vous dites elles sont encore en bulle.
Oui, mais bah oui, il y en a qui ne font pas encore de bénéfices ou très peu. N'oublions pas le Nasdaq pendant la bulle Internet. Plus 1100% sur une dizaine d'années et après moins 78%. Là, on a fait plus 1650% pendant effectivement plus que 10 ans, mais toute la phase de la bulle du numérique, on va dire. Et là, on est à moins 33. Donc, c'est pas parce que ça fait moins 33 que ça ne veut pas baisser davantage. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut rester prudent. On est en train de revenir vers un monde plus normal, mais ça n'empêche pas que sur le long terme, les placements boursiers restent les meilleurs avec l'immobilier. Donc il n'y a pas de problème sur ça. Mais à court terme, je pense que ce n'est pas encore complètement terminé.
D'accord. La prudence de Marc Toiti à l'instant sur les valeurs de croissance qui reprennent un peu de poil de la bête depuis quelques séances, c'est vrai, puisqu'on sent qu'il y a des plafonds là, sur le marché obligataire. On a plutôt eu une détente obligataire récemment. S'il y a une récession, les taux ne devraient plus beaucoup progresser non plus. Et donc, on voit ces valeurs de croissance en profiter de la détente obligataire. Marc nous dit, attention, il y a encore des bulles et elles sont encore trop chèrement valorisées. C'est aussi votre point de vue, Christian? Alors, dans une allocation, attention aux faux rebonds, aux faux amis dans la hausse, dans le rebond des valeurs de croissance.
Il y a deux choses. La valorisation intrinsèque et la réaction de marché actuellement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des mouvements de marché très techniques, notamment sur le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est simple. Vous faites le ratio valeur de croissance, valeur value, ou alors véritablement technologique, c'est corrélé au taux long. Tout bêtement. C'est-à-dire que vous regardez, la corrélation est quasiment parfaite entre les mouvements et taux longs. Donc en ce moment, on est dans des marchés très techniques. Si vous avez un chiffre d'inflation en Europe, alors on aura l'estimation flash en fin de semaine et puis le déflateur de la consommation que je vous disais tout à l'heure. Si on a des chiffres au-dessus des attentes, je peux vous faire le schéma. Vous allez avoir le Nasdaq qui va se perdre 4% en fin de semaine. À l'inverse, si le chiffre montre qu'en effet, on a atteint un pic d'inflation, on va se dire les taux longs ne vont plus monter aux États-Unis, ce que vous disiez tout à l'heure. Les taux longs ne vont plus monter, on stabilise les taux longs et à ce moment-là, il faut revenir absolument sur ces valeurs technologiques. Pourquoi ? Parce que sur le fond, quand vous regardez aujourd'hui, vous avez des perspectives de croissance aux États-Unis qui sont pas très florissantes. Donc vous n'allez pas prendre des valeurs très cycliques, vous n'allez pas prendre des valeurs qui pourraient profiter de l'amélioration de l'économie américaine, ça ne sera pas le cas. Donc vous allez sur des valeurs qui ont des profils de résultats solides et honnêtement, alors aujourd'hui, moi j'ai vu par exemple des publications comme Oracle. Oracle, c'était une très très belle publication. Sur le jour, l'action a monté. Le lendemain, elle était corrélée au Nasdaq et a baissé. Donc, on sait qu'il y a quand même des valeurs qui en ont en dessous. On accentue tout ça, on est quand même sur des taux de croissance de chiffre d'affaires de 20%. Alors, elles sont chères, mais elles ont quand même dû, aujourd'hui, avoir une valeur qui vous annonce encore des taux de croissance comme ça, avec l'incertitude économique qu'on a. La seule chose qui freine les investisseurs, c'est l'effet taux long. Et si les taux longs, véritablement, ne sont pas stabilisés, vous ne pouvez pas jouer ce secteur. Donc, aujourd'hui, moi, personnellement, c'est un secteur que j'ai remis à pondérer depuis une semaine. C'est un secteur qui est, je le dis franchement aux clients, c'est que c'est un secteur qui est quand même très risqué aujourd'hui parce que c'est un pari que je fais de ralentissement et de tassement de l'inflation. Alors je l'aurai peut-être pas sur un chiffre, on peut avoir un mauvais chiffre, donc attention, ça va être très très chahuté, mais c'est vraiment des mouvements techniques de marché. Faut bien comprendre, c'est du technique de marché. Après on regardera les fondamentaux, mais je suis pas très inquiet sur certaines valeurs puisque aujourd'hui ce qu'on constate, notamment dans les entreprises, c'est qu'il y a une volonté très forte d'investissement dans tout ce qui est technologique, et notamment pour un élément qu'on n'a pas pensé mais qui semble être un gros moteur d'investissement en ce moment, c'est d'améliorer les chaînes d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les entreprises font face à de nombreux fournisseurs, on se fournit plus qu'en Chine, on se fournit aussi en Inde, au Vietnam, ça demande des chaînes d'approvisionnement beaucoup plus optimisées, et donc là-dessus c'est énormément, alors on ne croit pas comme ça, mais c'est énormément d'investissements technologiques pour gérer et pour optimiser toutes ces chaînes d'approvisionnement. Donc moi je crois qu'aujourd'hui la priorité d'une entreprise c'est de se rassurer sur ses approvisionnements. Donc là, ils sont prêts à investir sur ça. Donc c'est vraiment des secteurs défensifs. Alors qu'habituellement, quand il y avait une récession, c'était des secteurs qui étaient liés à l'investissement des entreprises et c'était des secteurs qui souffraient au moment de la récession. Ouais. Et là, on est quand même dans peut-être quelque chose d'un peu acyclique parce qu'on est dans un monde qui change. Et là, il y a des investissements obligés qui vont se passer. Et je pense que ça sera une priorité des entreprises dans les prochains mois.
La tech n'est pas encore arrivée à maturité.
Non, mais la clé, quand même, ça, je suis d'accord, c'est qu'effectivement, c'est l'évolution des taux d'intérêt à long terme. Je n'ai pas arrêté de le dire depuis un an, des taux d'obligations d'État. Donc après, la question de savoir, c'est quoi le juste prix, finalement, le bon prix aujourd'hui de ces taux d'intérêt? Parce que encore une fois, quand on a une dette publique à 120% du PIB, on va en reparler tout à l'heure, je pense, sur la France.
Allons-y.
Mais bon, 200% effectivement.
La cote d'alerte de Bruno Le Maire. Oui.
Ah oui, ça aussi, c'est incroyable. On est en train de découvrir l'eau chaude, si vous voulez. Ça fait quand même des mois qu'on voit qu'on est en train de déraper sur la dette publique. Hein. Ça fait effectivement des mois, alors pas seulement en France d'ailleurs, mais surtout effectivement dans les pays du Sud et notamment en France. C'est qui est extrêmement dangereux. Donc on a le chiffre, hein, 2 901 milliards d'euros. Et on est bientôt sur les 3 000 milliards d'euros. Donc c'est quand même une somme finalement pharaonique. Et alors c'est un peu masqué parce que le PIB augmente grâce à un peu d'inflation, entre guillemets, le PIB en valeur. Mais sinon, la difficulté, c'est qu'on a vraiment aujourd'hui un danger, c'est que cette dette ne génère pas de croissance. Donc si vous regardez simplement une croissance aujourd'hui donc, qui est faible, donc ça limite effectivement les taux d'intérêt à long terme, mais une inflation qui reste élevée, elle va rester élevée, même je pense encore s'intensifier, notamment en France et en Europe, peut-être pas aux États-Unis mais notamment chez nous, et parallèlement une dette qui continue de flamber, les taux d'intérêt, les obligations d'État, surtout si la BCE limite un peu sa planche à billets, pour l'instant elle le maintient, mais dès qu'elle va vraiment la limiter, alors là il y a quand même, je pense, un potentiel de hausse qui va durer. Donc c'est là où ça devient effectivement dangereux. Dernier point sur la France, parce que vous posez la question, moi justement j'ai parce qu'on oublie ce chiffre, ça fait ce qu'on appelle l'actif net de l'État français. L'actif net, c'est on compare effectivement l'ensemble des actifs par rapport à l'ensemble du passif, donc l'ensemble des dettes va-t-on dire. Donc l'actif net de l'État français est négatif depuis 1995, donc ça on le sait, à l'époque c'était moins 180 milliards d'euros. Là, on est à moins 1900 milliards d'euros. Chiffre de l'INSEE, hein, chiffre de 2020. Alors, mais avant, on disait, mais c'est pas grave, parce que ça, c'est que l'État central. Ce qui compte, c'est la puissance publique totale, les collectivités locales, les musées, la Joconde, etc. Eh bien, c'est assez incroyable, personne n'en parle, mais j'ai fait cette découverte dernièrement. C'est-à-dire que les derniers chiffres du compte de patrimoine de l'INSEE, pour l'État, la puissance publique française, montrent que l'actif net est passé de plus 1000 milliards en 2007. Là, on est aujourd'hui à plus 180 milliards. Et si vous prolongez la courbe, selon mes estimations, parce qu'on n'a pas, ça c'est mes estimations à partir pour 2022, on pourrait avoir un actif net de toute la puissance publique négatif. Donc ça, quand on... Je disais la semaine dernière, oui, attention, là, et on a un risque de crise grecque en France, entre guillemets, alors ça fait couler beaucoup d'encre, on dit non, on ne peut pas dire ça. Mais attention, c'est vrai que nous sommes la France, on est plus puissant dans les actifs, mais si on regarde bien les comptes de la puissance publique française, l'actif net est en train de devenir négatif. Et donc, c'est là où je pense Bruno Le Maire commence à se dire, il faut qu'on arrête. Et donc, le problème, c'est qu'on a tellement lâché, hein, vous avez vu les chiffres, hein, depuis le début de la pandémie, 526 milliards d'euros d'augmentation de la dette publique. Le PIB, sur la même période, a augmenté de 95 milliards.
Pour sauvegarder le pouvoir d'achat, c'est de la croissance aussi, ça se finance pas.
Ben non, mais justement, si c'était de la croissance, ça irait. Mais c'est le problème. Plus 526... PIB seulement 95. Et ça dure. C'est ça tout l'enjeu. Et c'est là où effectivement on a atteint la cote d'alerte, mais c'est ce qu'il a dit Bruno Le Maire, mais malheureusement, on voit même que les mesures qui sont annoncées, ben on continue. Donc ça, c'est très dangereux, je pense, pour les taux d'intérêt.
30 secondes, la cote d'alerte, il a raison de le dire maintenant, Bruno Le Maire, ou c'est un prisme, c'est un enjeu, c'est un contexte,
dynamique,
c'est un dynamique, contexte politique qu'il pousse à dire
non,
ça.
Non, c'est un positionnement politique qu'il met, mais c'est clairement, aujourd'hui, on ne peut pas continuer sur un quoi qu'il en coûte aujourd'hui. C'est pas tenable parce que les taux d'intérêt sont en train de remonter, tout bêtement. Hein. Tant que les taux étaient à zéro et que la dette était rentrée dans le bilan de la BCE, c'est pas gênant. Alors, ils rentrent dans les différentes banques centrales, mais juste un petit point, quand vous avez 30% de votre dette qui est dans la banque centrale, dans le bilan de la banque centrale, c'est une dette qui est stérilisée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les intérêts qui sont versés sur cette dette sont reversés par les banques centrales nationales à l'État. Donc finalement, ça vous coûte zéro, cette dette. Ça devient problématique le jour où la BCE va vendre ce portefeuille obligataire, et on n'y est pas. Hein, on verra si un jour on le voit. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on enlève quand même. Donc,
on parle pas encore de réduction.
Voilà,
du bilan,
quand on était dans le quoi qu'il en coûte, il faut voir, c'est que la BCE achetait plus ce qu'émettaient les États. Donc, en gros, elle stérilisait une partie de la dette. Donc, c'était pas gênant. Aujourd'hui, on a bien compris, la BCE ne va plus acheter autant de dettes que par le passé. Alors, si on pourra reparler hein, peut-être de cet outil anti-défragmentation, mais ça sera un outil qui sera différent, très différent du quantitative easing. Et donc, on sort de cette époque-là, et c'est là qu'on atteint la cote d'alerte, parce que si on continue sur ce rythme-là, là, on va avoir vraiment les marchés qui vont se dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait un non-paiement un jour de l'État français ?
On va en reparler dans un instant, de cet outil de la Banque Centrale Européenne. On parle de tous ces sujets obligataires de dette majeure, parce que c'est aussi ce qui drive en ce moment les perspectives de marché. Le CAC 40 à quoi 13 minutes de la clôture recule un tout petit peu après avoir bien progressé la semaine dernière, moins 0,2% à l'instant. Et dans une poignée de secondes, Sabrina sera avec nous aussi. Sabrina Quagliozzi depuis New York. New York qui vient de repasser dans le vert, le S&P 500 notamment. On s'en reparle dans une minute, 1 minute 35. À tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse, Le club.
On est ensemble en direct, 17h25. Un coup d'œil à la séance du jour à Wall Street. Alors que le club se poursuit, bien sûr, Marc Touati et Christian Parizeau nous accompagnent pour encore une bonne dizaine de minutes. Sabrina aussi avec nous depuis New York. Sabrina, les indices américains finalement sont plutôt positifs ce soir. Ce matin, il est quelle heure chez vous là? Il est 11h25 ce matin chez vous, Sabrina.
11h25, oui, ici une séance encore assez volatile sur ces marchés américains qui hésitent depuis l'ouverture entre la hausse et la baisse. Actuellement en hausse, en tout cas pour l'indice Dow Jones qui prend 0,26%, 31 582 points. Le S&P 500 de son côté affiche une hausse de 0,3%, 3 925 points. L'indice Nasdaq est encore à la traîne. On est quasi inchangé avec un pied pour le moment en négatif, 11 606 points après une très belle semaine à Wall Street, de fortes progressions pour les 3 à 10. Plus 5,4% sur l'ensemble de la semaine pour l'indice Dow Jones, 6,7% sur le S&P 500 ou encore de 7,5% pour l'indice Nasdaq. Séance marquée par quelques statistiques, les commandes de biens durables, plus 0,7% sur le mois de mai, c'est supérieur aux attentes. Les ventes de logements en cours, de leur côté, ont grimpé de 0,7% en mai par rapport à avril. C'est une hausse surprise qui vient mettre fin à 6 mois consécutifs de repli. Alors, si on regarde sur un an, on est quand même sur un repli de 13% par rapport à la même période l'année passée. Tout cela, bien sûr, en attendant les chiffres de l'inflation en fin de semaine, jeudi, la publication de l'indice PCE. Du côté de l'actualité des entreprises, le dossier Spirit Airlines avec la compagnie low cost qui demande à ses actionnaires d'accepter l'accord conclu de fusion conclu avec Frontier Airlines. Un vote des actionnaires est prévu ce jeudi, une offre de Frontier qui, rappelons-le, est inférieure à celle de JetBlue, qui est également en lice pour le rachat de Spirit Airlines. Spirit perd un petit peu plus de 7% actuellement. JetBlue, de son côté, affiche une hausse de 2%. On a Nike en vedette aujourd'hui, surtout ce soir après la clôture, à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels. En attendant, le titre Nike perd 1,4%. Vous avez également des commentaires d'analystes avec Goldman Sachs qui a révisé à la hausse sa reco sur Robinhood, passant de vendre à neutre. Le titre de la plateforme de trading est en hausse du coup de 3,5%. En revanche, Goldman Sachs est passé à vendre sur Coinbase. Coinbase qui perd plus de 7% actuellement dans un marché qui hésite pas mal. On est pour le moment en hausse sur l'indice Dow Jones, plus 0,27%. Le S&P 500 également, plus 0,3%. Le Nasdaq, quasi inchangé désormais avec un obligataire, un 10 ans américain à 3,18 et un baril de brut qui est en légère progression, plus 1,5% à 109,30 $. Donc voilà pour cette séance, on verra si la hausse tient sur ces indices américains d'ici ce soir la clôture, Guillaume.
À tout à l'heure, Sabrina Quagliosi depuis New York en direct, la correspondante BFM Business, le CAC 40 quasi stable, toute petite baisse de 0,19%. Bouygues, lanterne rouge, moins 2%. On a aussi Essilor Luxottica, après le décès de son président, qui recule aujourd'hui d'1,7%. Un président d'Essilor Luxottica qui était un actionnaire de poids au sein de Mediobanca et de Generali, deux valeurs aussi qui sous-performent ce soir. Pour évoquer cette séance, le potentiel pour la suite, Christian Parizeau nous accompagne, le président d'Alter Economics, ainsi que Marc Touati, économiste et président du cabinet ACDFI. Marc, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que les marchés ne s'inquiètent absolument pas du défaut de la Russie. Ça y est, la Russie a fait défaut sur sa dette en devises étrangères pour la première fois depuis 1918. On en parlait au début de la guerre en Ukraine, on agitait ça comme un risque énorme. Ça a lieu, les marchés s'en fichent.
Disons que c'était tellement attendu, et puis surtout, la Russie n'a pas fait faillite. C'est-à-dire que c'est ça qui est incroyable dans cette guerre. C'est que, on a vu le rouble qui, effectivement, dans un premier temps, s'est effondré. Après, il est revenu sur des niveaux supérieur à ce qui se prévalait avant la guerre. Pareil, les taux d'intérêt des obligations de l'État russe qui avaient flambé, c'est revenu à des niveaux là aussi inférieurs à ce qui prévalait avant la guerre. Et puis surtout, moi, ce qui met à main, c'est un petit peu comme pendant le coronavirus, hein, c'est le pays qui en a le plus profité, c'est la Chine. On a des excédents commerciaux de 777 milliards de dollars sur 12 mois, un record absolu. Bref, je suis pas dans la théorie du complot, bien sûr, mais quand même pour rappeler. Et là, sur la Russie, on a oublié que, on veut pas le regarder. Je regardais les chiffres encore dernièrement, où on a des excédents commerciaux records. On est à 60 milliards de dollars sur le premier trimestre seulement de 2022. On n'a jamais vu ça. C'est le double par rapport à ce qui prévalait il y a un an. Sur les 12 derniers mois, la balance courante, on est à 150 milliards de dollars d'excédent. Donc évidemment, puis pareil, un pays qui fait défaut normalement, c'est un pays qui est surendetté. La dette publique russe, vous voyez, la plus révélateur, on est aujourd'hui à 18% du PIB. Donc évidemment, quand toutes ces sanctions, c'est sûr que ça produit des effets, mais On voit bien les Russes qui, clairement, l'orientation, bah, ils ont développé leurs échanges avec, avec la Chine, avec l'Inde. On parlait de l'Inde tout à l'heure, alors qu'ils ne se commerçaient pas du tout avec l'Inde à l'époque. Donc, c'est ça qui est complètement fou, c'est que pour l'instant, les grands perdants de cette crise, ça reste malheureusement, encore une fois, évidemment, c'est un drame humain, hein, une guerre, il faut que ça s'arrête le plus vite possible pour les populations, évidemment, qui sont concernées, pour tous ces massacres, c'est horrible, bien entendu, mais d'un point de vue économique, la zone qui en pâtit le plus, pour l'instant, c'est nous. C'est l'Europe, la zone euro, l'Allemagne avec effectivement les prix du gaz, etc. Donc on est très bon pour donner des sanctions, etc. Mais finalement, on se rend bien compte que ben, la Russie, elle garde le jeu en main. C'est assez incroyable. Et donc c'est ce qui fait que, même si globalement il y aura des sanctions ou autres, l'impact économique qu'on avait annoncé, que certains avaient annoncé en disant la Russie va faire faillite, bon, pour l'instant, je dirais, on en est encore loin.
Formuleriez ainsi les choses aussi, Christian ?
Bon, là, c'est un défaut voulu par les Américains.
Ouais.
Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a bloqué tous les fonds en dollars. On empêche aujourd'hui aux banques américaines de distribuer en dollars tout ce qui est paiement de coupons. La Russie a bien proposé de payer en roubles, mais le fait de payer en roubles, c'est considéré comme un défaut. Et donc, on est dans un défaut technique. Alors, il n'est pas... Pourquoi le marché ne réagit pas ? Parce qu'il était quand même un petit peu en cours.
Oui,
hein.
Oui.
On le savait depuis quelques semaines et on savait que ce serait c'est pas un défaut lié aux finances publiques.
Il est symbolique.
Et puis l'élément peut-être historique et qui laissera des traces très fortes sur le dollar, à mon avis, c'est qu'on a envoyé un message très fort qu'on pouvait geler les avoirs d'une banque centrale qui laisse ses réserves de change dans un pays étranger. Si vous avez des réserves de change en dollars, vous êtes obligé de le mettre auprès d'une banque américaine et le déposer en dollars. Et donc, le fait de geler ça aura, à mon avis, d'énormes répercussions.
Sur la confiance dans le dollar.
Je vous donne juste un petit exemple. Vous appelez la Chine, vous voulez un jour lointain, on espère, envahir Taïwan, eh ben, vous n'avez pas laissé tous vos avoirs de votre banque centrale sur la dette américaine en dollars. Parce que vous avez eu l'exemple russe. Donc, c'est des choses qui font réfléchir, en tout cas. Et je pense que ça va être un vrai élément qui, on le voit, hein, avec le discours autour des BRICS, qui veut vraiment d'une partie des pays du monde qui vont vouloir se désensibiliser du dollar.
Mais surtout le fait que ce qu'on oublie, c'est que malheureusement, ou heureusement pour les autres, nous ne sommes plus les maîtres du monde, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on réagit encore comme si, aujourd'hui, on donnait le là. N'oublions pas que ce qu'on appelle les pays émergents, bon, notamment grâce à la Chine, mais c'est quand même plus de 60% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat. Donc, dans les années 2000, c'était exactement l'inverse. Et on continue de faire comme si on était toujours les maîtres du monde. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ça, c'est bon, la prochaine crise.
Après, on essaie de trouver les armes là où on peut face à une guerre.
Mais mieux vaut ne pas faire la guerre, j'ai envie de dire. Enjeu, c'est que moi, je pense que le grand challenge des 20 prochaines années, bon, là, on fait de la prospective de très long terme, sera bien sûr le match dollar yuan, parce que les Américains tiennent grâce au poids du dollar, et c'est vrai que si jamais demain le dollar n'est plus le benchmark mondial, alors le yuan n'est pas encore prêt, bien sûr, mais ça prendra peut-être 10-15 ans. Mais à ce moment-là,
seulement 10-15 ans,
ou peut-être, vous savez, les Chinois vont très très vite, hein. On a souvent eu tendance à les sous-estimer. Alors j'espère que ça, moi j'étais sûr que justement avec le coronavirus ça allait les calmer, en fait pas du tout, hein, et que les Chinois sont encore plus forts qu'avant, c'est assez incroyable. Donc ce qui fait que globalement il y aura ce danger, hein, je dirais, à moyen terme. Mais là, ce serait une crise bien plus grave que ce qu'on a connu aujourd'hui. Mais bon, chaque crise en son temps. Hein. On va déjà finir ça là. Ce n'est pas avant 10-15 ans. Donc, on aura le temps d'en reparler.
Vous rappelez le nom de votre livre qui ressort, là, d'ailleurs ?
C'est Reset, en fait. Ouais. Et le prochain, donc c'est la suite, sera Reset 2. Parce qu'en fait, je m'étais dit, on va appuyer sur Reset et puis ça va redémarrer mieux qu'avant. En fait, c'est pire. Donc, il faut un Reset 2, si vous voulez. Donc, ça sortira le 1er septembre. On en reparlera.
Déjà le 203.
Ah, peut-être il y aura un 3, on verra. On verra bien.
Heureusement, la BCE est là et son outil anti-fragmentation. On commence à en voir les grandes lignes.
Oui. Oui, alors, il n'y a rien d'officiel, hein, mais là, on a eu quelques déclarations. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'ils vont le positionner comme un outil d'apport de liquidité sur les marchés obligataires. Et ça ne sera donc pas du quantitative easing. Hein, ça ne sera pas véritablement une volonté d'acheter définitivement de la dette. Ça sera juste un outil pour corriger des mouvements obligataires qui jugeraient un peu trop extrêmes. Ouais. Ça veut dire que s'il y a vraiment un risque pays qui apparaît, ils vont tout faire pour le limiter. Mais à l'inverse, quand tout ira bien, on revendra le portefeuille obligataire. Et puis, surtout l'élément.
Donc, pas de hausse de la taille du bilan de la BCE.
C'est ça. C'est ça l'élément central. C'est qu'ils veulent stériliser leurs achats. Alors, stériliser, c'est comment? C'est-à-dire que quand vous créez 100 euros, vous achetez l'obligation, mais vous avez augmenté votre bilan de 100 euros. Donc, ça veut dire qu'ils vont reprendre ces 100 euros sur d'autres activités. Alors, soit ils donnent un peu moins de liquidité aux banques, c'est une possibilité, ou soit on pourrait aussi penser qu'ils pourraient revendre une partie des obligations qu'ils ont dans leur portefeuille. Alors, pour faire simple et de manière un peu carrée, j'achète de la dette italienne et je revends de la dette allemande. C'est ce qui apparaît le plus simple. Et donc, ça permet de stabiliser le marché obligataire européen.
Les Allemands, ça va les ravir, on imagine.
Oui, alors, alors après, c'est là où est tout l'enjeu, c'est qu'il faut dire, un, que c'est pas pour de la politique monétaire. C'est-à-dire qu'il faut pas dire d'un côté je crée des euros pour de l'autre durcir ma politique monétaire, donc ça serait pas cohérent. Donc faut vraiment mettre ça et que ça soit rentre dans le cadre constitutionnel de la BCE. Et donc là ils vont marcher vraiment chaque mot de leur présentation de leur renouvelé outil va être suivi de très près par tout ce qui est cour constitutionnelle européenne.
Ouais, faut pas oublier que déjà dans l'article 105, déjà la planche à billets qu'on a faite, bon grâce à Mario Draghi en 2015, hein, c'était borderline déjà, c'était juste. Mais justement quand on voit les chiffres qui montrent cette planche à billets, hein, rappelez-vous, le bilan de la Banque Centrale Européenne en 2015, avant que ça commence, c'était 2 000 milliards d'euros. Avant la pandémie, on était à 4 000 milliards. Là, on est à quasiment 9 000 milliards. Vous vous rendez compte, depuis 2015, 7 000 milliards.
Mais le monde entier, Marc.
Non. C'est une telle augmentation en si peu de temps. Alors, je dis pas qu'il fallait pas le faire, entre guillemets. Enfin, sur la fin, non, je pense qu'il fallait pas le faire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est que, en gros, on continue cette politique de déresponsabilisation. On dit, finalement, les États lâchent leur dette publique, c'est pas grave. La BCE est là pour limiter, justement, l'augmentation des taux d'intérêt. Moi, je suis très surpris que les Allemands laissent faire, pour l'instant. Mais le vrai danger, encore une fois, c'est ça, c'est
elle va relever ses taux en juillet, la BCE.
Mais c'est rien. On va faire 25 centimes. C'est épidermique, quoi. C'est psychologique, si vous voulez. Mais le problème est là, c'est que ça crée ce qu'on appelle un aléa morale. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de sanction effectivement de l'augmentation des taux d'intérêt, on se dit je peux continuer comme ça, éternellement, et puis finalement à la fin, on laissera un boulet à nos enfants, aux générations à venir, qui sera dramatique.
Le mois de juillet sera chaud avec la BCE, donc
la canicule aussi.
Bien sûr, la canicule peut-être, on n'espère pas, l'outil anti-fragmentation, et puis la BCE qui communiquera désormais son choix de politique monétaire non plus à 13h45, mais à 14h15. Ça change pas grand-chose.
c'est juste, parce que peut-être pour après le repas, c'est ça à mon avis.
C'est pour allonger le repas, vous.
Non, pour ça.
C'est pour allonger les discussions officiellement, mais...
C'est bizarre quand même, mais bon.
Bon, et puis on va suivre aussi les publications des entreprises. 30 secondes, Christian, les attentes sur les publications restent trop optimistes?
Alors, oui et non, parce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a de l'inflation aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on constate, et on l'a vu par exemple avec les résultats du PS, qui étaient assez, qui donnaient pas mal d'enseignements, c'est-à-dire que les entreprises remontent leur prix de vente. UPS, ils avaient une baisse du nombre de colis livrés, mais une hausse de leur prix de vente, et ils ont maintenu leur marge opérationnelle. Donc, mécaniquement, les profits étaient en hausse. Et je pense qu'on a une illusion en ce moment,
attention,
on a une
volume,
illusion
ouais.
d'optique, qui est l'inflation. Et attention, parce que quand la désinflation va arriver, c'est-à-dire que ça voudra dire que les entreprises auront eu des hausses de coûts qu'elles ne peuvent plus répercuter aux consommateurs, et c'est là qu'on verra les marges baisser, c'est là qu'on verra les chiffres d'affaires progresser beaucoup moins vite. Donc là, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les analystes ont raison, parce qu'ils nous montrent seulement qu'il y a de l'inflation. Mais l'illusion inflationniste va disparaître au moment de la désinflation.
Bon. Ouais, on est d'accord, je pense qu'effectivement c'est le problème de l'inflation, c'est qu'on ne voit pas la réalité en face, donc il faudra qu'on se réveille un jour ou l'autre.
Les marchés, ils ont anticipé, ils ont plus baissé que les attentes des analystes sur les publications.
Mais on pourrait avoir paradoxalement encore des résultats d'entreprises assez bons sur le deuxième trimestre, parce que je vous rappelle qu'on a eu quand même une inflation record, que ça soit aux États-Unis ou en Europe, et ça se verra plutôt au moment où on aura le retournement de l'inflation, donc attention à ce moment-là, c'est
sûr.
Là qu'on aura vraiment les effets.
S'il y a une inflation record, c'est que les entreprises répercutent les hausses de prix et préservent leur marge.
Pas toutes non plus, hein, pas toutes. Hein,
c'est pour ça qu'on voit dans les enquêtes,
on
les enquêtes
fini.
Très bonnes des entreprises et très mauvaises pour les ménages.
Merci à tous les deux. Le club, dans un instant, de Kersulet qui nous attend depuis la Tour Euronext, Christian Parizeau et Marc Toiti nous accompagnaient. Marc Toiti, le cabinet AC Défi, et donc Reset 2 apparaître très bientôt.
1er septembre.
1er septembre.
On en reparlera.
Bien sûr, vous reviendrez. Christian Parizeau, président d'Alter Economics, régulièrement à nos côtés. Merci messieurs, dans un instant, donc, hôte depuis la Tour Euronext sur BFM Business. A tout de suite. Ça y est, c'est terminé cette nouvelle séance européenne, pan-européenne. Aude Kersulec nous accompagne, BFM Business, au cœur de la Tour Euronext. Rebonsoir Aude, on termine en baisse sur le CAC 40.
Bonsoir. Et oui, une première journée dans le rouge pour le CAC 40. On perd 0,4% à 6047 points. Et pourtant, on a une Europe dispersée ce soir, puisque Londres a clôturé à plus 0,8%. Francfort aussi, plus 0,5%. Et puis l'Eurostox, elle est un petit peu moins, plus 0,1%. Et du côté de Wall Street, on n'est pas non plus décidé sur la couleur à avoir au sein des indices. Alors Paris qui s'en sort un petit peu moins bien. Pourtant, dans la composition du CAC 40, on n'a pas de grosse variation. On a l'industrie qui est tout de même venue en support aujourd'hui avec ArcelorMittal, plus forte hausse à 2,5%, 23,08€. Renault aussi, plus 2,2%. Et puis les équipementiers automobiles aussi, là c'est sur le SBF 120, mais ils se sont démarqués aujourd'hui avec Faurecia qui prend quasiment 4% à 20,06€. Et Valeo, plus de 2,5%. Alors du côté des baisses, on a Safran qui est finalement la plus forte baisse du jour, qui perd plus de 2,2%. Et puis Essilor Luxottica, 2,2% à 143,30€. Alors, on peut parler d'Italie aujourd'hui parce qu'on a appris effectivement la mort de Leonardo Del Vecchio, que ça remue un peu le monde des affaires là-bas. Il était tout de même la deuxième fortune italienne, patron d'Italie. Il a créé donc cet empire de la lunette Luxottica qui a ensuite fusionné avec Essilor. Et puis il était aussi actionnaire dans la banque ou l'assurance avec Mediobanca, la banque d'affaires ou Generali aujourd'hui qui sont du coup en recul de quasiment 3% à Milan. D'ailleurs, la bourse italienne est elle aussi en repli, moins 0,7% dans des marchés qui ont eu du mal à se mettre d'accord aujourd'hui et pas beaucoup de volume d'ailleurs en ce lundi. Et donc pour le CAC, c'est moins 0,4% à 6047 points.
Merci Aude, vous nous accompagnez tout au long de cette fin de journée sur BFM Business et tout de suite on va continuer de débriefer cette séance, vous aider à en faire votre miel, agir sur vos portefeuilles en tirant un max d'enseignements de cette clôture. C'est parti.
BFM Business, BFM Bourse, on refait la séance.
Et on est ravis d'accueillir Bertrand Lamiel ce soir, le directeur général de Ports en Parts Gestion. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir Guillaume.
Et bienvenue sur le plateau de BFM Business. Avant-dernière séance, avant la fin du semestre, c'est plutôt calme sur les marchés. On avait bien progressé la semaine dernière, aujourd'hui plutôt en mode pause. Est-ce que vous pensez que la hausse de la fin de semaine dernière, de la semaine dernière tout simplement, est le début de quelque chose, le début d'un possible cycle? Est-ce que vous voyez les as s'aligner pour que ce rebond de la semaine dernière, malgré la pause aujourd'hui, se confirme et se poursuive?
Alors, sur le principe, oui, on a commencé la semaine dernière un rallye de contre-tendance, c'est-à-dire voilà, dans un marché baissier, on est en train de reprendre un petit peu d'altitude. En Europe, tout ça milite pour un scénario de range horizontale avec des oscillations dans un couloir horizontal. Ceci est étayé par le fait que du côté du CAC et de l'Eurostock 50, on est revenu toucher des points bas de mars, mais on ne les a pas enfoncés. On a un scénario assez différent aux États-Unis, où là, les points bas de mars ont été enfoncés. Donc, ce qui pouvait être un scénario de consolidation en 3 temps, on se dirige vers un scénario de consolidation en 5 temps. Donc, probablement qu'on est en train de vivre un rallye de contre-tendance qui appellerait potentiellement des nouveaux plus bas ultérieurement. Donc à regarder, on est dans une fourchette où il nous reste peut-être en gros 7% à faire pour atteindre les premières cibles. On verra quand on arrivera à ce niveau-là si le marché, les investisseurs ont envie d'aller un peu plus haut et on a des supports 7% plus bas par exemple sur au niveau des États-Unis. Ce qui est notable quand même, c'est que donc là, retour de balancier, on voit revenir la tech et inversement ça vend du pétrole. Donc globalement, ouais, on va acheter ou racheter parce qu'on était short des dossiers qui ont été bien attaqués depuis le début de l'année. La tech, on est sur du moins 32% en Europe depuis le début de l'année. Et inversement, ça a vendu du pétrole où on était à plus 9. Le pétrole, globalement, sur la dernière semaine, il a perdu la moitié de son avance. Donc pour l'instant, ça reste une logique de normalisation. Ce qui était monté revient un peu en arrière. Ce qui avait beaucoup baissé est en train de reprendre un peu d'altitude.
Ces courbes-là devraient se prolonger ou pas d'après vous? Est-ce que la revanche de la tech, la revanche des valeurs de croissance, c'était un feu de paille juste le temps d'une semaine où les astres s'alignent le pic d'inflation peut-être proche, les taux obligataires qui pourraient ne plus progresser, ce qui serait favorable à ces valeurs de croissance?
Alors c'est trop tôt pour crier victoire avec le retour de la croissance. Pour l'instant, ça ressemble à une logique de retour à la moyenne. Donc à confirmer quand on arrivera sur les points de résistance. Est-ce qu'on a assez d'élan? Est-ce que les mains sont assez fortes pour aller un peu plus loin? Il y a quand même des phénomènes notables dans ce scénario-là. C'est qu'on voit par exemple l'indice Nasdaq Biotech, donc qui est quand même un concentré de valeurs de croissance. Certaines sont encore pas mal en perte. Donc là, pour le coup, cet indice a arrêté sa tendance baissière et est en train de refaire des plus hauts. Donc là, il va falloir surveiller parce que ça peut être un des signaux où les investisseurs se disent « Ok, là-dessus, en gros, on a assez tapé, il est temps de reprendre des positions longues. » La plus grosse valeur, je crois, du Nasdaq Biotech, c'est Amgen. Franchement, elle a un comportement qui est plutôt engageant. Et probablement qu'en fait, c'est un effet de capillarité avec ce qui se passe aux États-Unis, notamment sur les indices de la santé. On le voit aussi en Europe, ça se dessine de la même manière. On voit que les dossiers de la santé sont beaucoup mieux entourés. On a des dossiers comme par exemple Bristol Myers Squibb qui sont en train de faire des nouveaux plus hauts, qui ont cassé des résistances, qui sont en train de faire des nouveaux plus hauts. Eli Lilly se comporte bien, Merck se comporte bien. Donc on voit que sur les grosses valeurs de la pharma, pas les medtech, pas les équivalents de Sartorius ou Eurofins à l'époque chez nous, les grosses valeurs de la santé sont en train de faire un rallye. Et finalement, dans le contexte qu'on connaît, c'est assez logique. On retrouve des dossiers qui vous donnent plutôt pas mal de visibilité, qui en termes de ratio de valorisation ne sont pas forcément élevés et qui en plus ne sont pas très volatiles. Donc dans un portefeuille, si vous voulez compresser la volatilité du portefeuille, parce qu'à côté de ça, vous avez les secteurs gagnants que sont globalement, or la finance avec la banque et l'assurance, c'est un jeu de à toi et à moi, et globalement les matières premières, l'énergie, là on est sur des secteurs qui sont quand même extrêmement volatiles. Donc mettre de la santé à côté, c'est pas mal pour limiter les jubilations trop fortes du portefeuille.
Alors vous allez me dire que c'est très cyclique et que pour le coup ça risque de renforcer la volatilité des portefeuilles, mais le secteur automobile, il est remonté aujourd'hui ce secteur parmi les plus fortes hausses sectorielles après 4 semaines de repli d'affilée pour ce secteur automobile. Est-ce qu'à votre avis il est temps d'en remettre de l'auto dans les portefeuilles?
Pour nous c'est trop tôt. Phase de pause, c'est encore trop tôt.
Il faut éviter les cycliques et il faut éviter les valeurs de croissance pour lesquelles il est aussi encore un peu trop tôt.
Bah, soit vous en avez encore beaucoup et il y aura peut-être des prix qui vont être plus attractifs pour pouvoir décoller un petit peu le portefeuille de ce type de secteur. Soit vous en avez pas, vous êtes dans une logique plutôt à court terme. Alors pour le coup, avec des stops bien établis, enfin je veux dire, il y a une logique de risque bien nette. Dans une logique d'investissement, c'est encore trop tôt. On préférera avoir des confirmations et surtout un changement de comportement des investisseurs, parce que du côté opérationnel, si on prend les valeurs technologiques que vous citiez, ça se comporte toujours très bien. Elles continuent à faire de la croissance. En termes de marge, elles continuent à engranger des beaux niveaux de marge. Donc de ce point de vue-là, ça ne s'est pas arrêté. C'est juste le regard des investisseurs sur ce secteur qu'il a jugé à un moment donné trop valorisé en regard du secteur value qui pour le coup était vraiment très très bas. Donc il y a eu un effet de balancier où on est sorti massivement des dossiers chèrement valorisés, dossiers de croissance, pour aller acheter à bon compte des dossiers plus value. Donc pour l'instant on est toujours dans ce match là et il n'y a pas de renversé, on n'a pas renversé la table avec une semaine de hausse.
Dans un instant on poursuivra nos échanges. Bertrand Lamiel, le directeur général de Ports Empare Gestion, est à nos côtés pour débriefer cette séance. Le CAC moins 0,4% vous le rappelle en clôture. On se retrouve juste après la pause dans 2 minutes. Touron, à tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse, on refait la séance.
Bertrand Lamiel nous accompagne, le directeur général de Ports Empare Gestion. Vous rappelle la clôture ce soir du CAC, moins 0,4%, 6047 points, une séance de transition, une séance de pause après une belle hausse du CAC la semaine dernière. Il avait pris plus de 3%. Le S&P la semaine dernière avait pris 6,5% quasiment. Aujourd'hui, le S&P est quasiment stable. Parmi les valeurs qui se sont distinguées, vous avez repéré, Bertrand, Prosus. Ce soir, plus 16% quasiment ce titre. Qu'est-ce que ça nous dit ?
Alors, Prosus, il faut savoir que c'est une holding qui détient pour la plus grosse partie de sa participation, de sa valorisation du Tencent. Donc, voilà.
C'est la tech chinoise.
Valeur tech chinoise, à la fois des moyens de paiement, à la fois des jeux. Et donc, un gros gap, donc un gros trou dans les cotations. C'est-à-dire qu'entre la clôture de vendredi soir et l'ouverture et le point bas du jour, il y a un trou dans les cotations. Donc, ça,
on parle de Prosus, puisqu'il paraît que on n'a pas entendu quand j'ai cité Prosus.
Voilà.
On parle bien de Prosus, tous ceux qui.
PRX pour le ticker. Ouais. Donc ça, dans une configuration de marché normale, voire haussier, c'est quelque chose qui s'achète. Il y a un vrai message qui est donné par les investisseurs. On est reparti dans une dynamique haussière, ce d'autant plus qu'on est en train d'attaquer une moyenne mobile de 100. Enfin, globalement, tout est bien. Sauf que dans le marché qu'on connaît, il faut quand même creuser, aller regarder plus loin. Et on s'aperçoit que quand on va regarder Tencent, qui est coté à Hong Kong, là, pour le coup, c'est flat, ça démarre pas vraiment. Donc, on a des dossiers type Alibaba, enfin la tech chinoise. Il y a eu quand même un revirement politique en Chine sur le sujet, avec un peu moins de pression sur ces dossiers. C'est en train de revenir. Nous, on fait quand même un petit peu attention. On n'est pas dans un environnement où on peut se permettre de prendre des risques et d'acheter les yeux fermés ce type de comportement. Il est probable que dans les temps à venir, vu le contexte de marché, encore une fois, on puisse reperdre un petit peu d'altitude. Et donc, on verra si il y a un peu de force ou si on repère tout ce qu'on a gagné.
Le fil rouge de vos propos, depuis que vous nous accompagnez, depuis un petit quart d'heure, c'est attention, le pire n'est pas forcément derrière en bourse. Voilà, il est un peu trop tôt pour sortir.
Il est trop tôt pour se dévoiler. On a un sentiment extrêmement baissier de la plupart des investisseurs. Donc, d'un point de vue contrariant, c'est une excellente nouvelle, parce que ça veut dire que quand tout le monde est baissier, logiquement, le potentiel il est plutôt à la hausse. Par contre, ce sentiment baissier peut durer un moment, et donc on peut être secoué pas mal pendant ce temps-là. Donc, il faut être prêt. Il nous semble qu'une bonne partie de la baisse quand même est passée derrière nous. On va avoir les publications qui arrivent. Ça fait longtemps qu'on les attend. Là, pour le coup, celle-là, c'est...
Ça arrive au mois de juillet.
Il faut qu'on y voit clair sur, sur ce que nous disent les entreprises, à la fois de ce qu'elles ont fait sur le semestre, mais surtout de ce qu'elles envisagent sur le second semestre. On a quand même eu des révisions à la baisse de manière assez notable, par exemple, sur Kingspan, un concurrent de Saint-Gobain, sur les matériaux de construction, qui a dit « ça s'est bien passé jusque-là, mais je vois que pour demain, ça va être beaucoup plus compliqué ». Donc, on voit que ça et là, ça commence à tanguer. Donc, il va falloir regarder de très près. Les sociétés, il va falloir qu'elles soient au rendez-vous avec les attentes. Donc,
Et qu'est-ce qu'il faut privilégier ? Parce que c'est vrai que c'est un message de prudence depuis que vous êtes là. Est-ce que vous avez quand même des pépites, des idées de valeur dont vous vous dites « bon, quand même, c'est le moment de... » Alors, les recommander, je ne sais pas, mais d'en parler parce qu'il faut que les investisseurs les aient dans leur paysage pour investir.
Ben nous, vous avez compris que dans les grandes thématiques, on est présent plutôt sur pétrole, énergie, matières premières. Voilà, mais encore une fois, c'est assez volatile.
Même si les patrons de Total Energy, EDF et Engie disent qu'il va falloir réduire notre consommation, ils appellent à une baisse de la consommation d'énergie, les trois, dans une tribune commune, quitte à perdre du chiffre d'affaires, du coup. Alors ça n'a pas atteint les titres. Hein. Total Energy, EDF et Engie ont progressé contre la tendance aujourd'hui.
Non, mais là,
cette tribune commune.
J'interprétais ça comme plutôt un message citoyen en disant il y a quand même un vrai sujet sur l'approvisionnement des matières premières. À partir du moment où on veut limiter, voire arriver à zéro dans notre commerce sur ce segment-là avec la Russie, on n'a pas les approvisionnements forcément nécessaires pour passer l'hiver. Donc, enfin, on voit bien que là, on est dans l'incertitude et qu'il faudra probablement, enfin, ils nous appellent en tous les cas à revoir nos comportements. Et donc, à côté de ça, nous, ce qu'on regarde, c'est les dossiers, encore une fois, dans cet environnement tumultueux, qui ont arrêté leur tendance baissière, amorcent un début de remontée. Alors, forcément, ça peut pas caracoler, parce qu'il y a quand même une chape de plomb sur le marché, mais des dossiers dans l'énergie alternative, typiquement, on trouve qu'un dossier comme Solaria, qui fait des exploits et, enfin, conçoit, produit, exploite et ou revend des fermes solaires, notamment en Espagne, c'est plutôt bien orienté, ça tient bien dans ce marché, et surtout les derniers messages qui sont passés, notamment sur le fait que dans leurs contrats, ils avaient certes des contrats longs, mais une partie plus importante sur les derniers contrats où ils s'ancraient sur le prix spot, donc profiter des prix élevés d'énergie. Donc tout ça nous paraît plutôt sain comme comportement, et c'est le type de dossier qu'on aime bien, sachant que quand on regarde sur les énergies alternatives, que ce soit le solaire, que ce soit l'éolien, l'hydrogène, on a à peu près partout le même type de comportement, plus ou moins avancé, en Europe comme aux États-Unis. Donc on voit bien qu'il y a une thématique qui est en train de monter en puissance.
Bah voilà, une idée pour ceux qui veulent diversifier ou compléter leur portefeuille boursier. On zoome aussi ce soir sur la clôture d'Essilor Luxottica qui souffre en bourse du décès de son président Leonardo Del Vecchio. Essilor Luxottica a terminé deuxième plus forte baisse du marché, moins 2,2%, et il était aussi un actionnaire important de Mediobanca. Mediobanca qui en Italie a reculé ce soir d'un peu plus de 2%. Voilà, un seul être vous manque et parfois tout est dépeuplé en bourse, Bertrand.
Alors là, il y avait deux solutions possibles. C'est soit la spéculation reprenait, que va-t-il advenir de son capital, est-ce que ça va être vendu, et ça aurait pu être probablement que dans un contexte de marché plutôt haussier, on aurait pu voir des hausses assez fortes là-dessus avec des primes spéculatives. Là, encore une fois, on est rattrapé par le contexte et les investisseurs ont plutôt préféré aujourd'hui voter avec leurs pieds de manière plus prudente.
Bertrand Lamiel est le directeur général de Ports en Part Gestion à nos côtés ce soir. Merci beaucoup Bertrand d'être passé nous voir en plateau. Le CAC 40, on vous rappelle, en clôture, a perdu à peine 0,4%. Rien de très méchant dans des marchés européens plutôt bien orienté. Hein. L'Eurostock 50 a fait mieux que le CAC. Il a gagné l'Eurostock 50, 0,16%. À Paris, c'est Safran, la lanterne rouge, moins 2,2%. Derrière, on a Essilor Luxottica, qu'on évoquait à l'instant. Également Worldline, moins 2,1%. Et puis à la hausse, quand même, ArcelorMittal, plus forte hausse ce soir, plus 2,6%. Dans un instant, Elvige Chevrillon, le grand journal de l'écho, 18h-20h chaque soir sur BFM Business. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.